La ville de Jérusalem est proclamée la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Loi votée par la Knesset le 30 juillet 1980.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Grâce aux statistiques britanniques, nous pouvons voir l'évolution de la population de Jérusalem à l'époque donc du mandat britannique. Ce qui est notable, c'est que la présence juive durant l'entre-deux-guerres tend à se développer. En 1922, au début du mandat britannique, 34 000 juifs vivent à Jérusalem. Ils sont 51 000 en 1931. Pour leur part, les musulmans passent de 13 400 en 1922 à 19 900 en 1931. Quant aux chrétiens, qui pour la plupart sont des arabes chrétiens, ils sont 14 700 en 1922 et 19 300 en 1931. Donc, lors du mandat britannique, la confirmation de la forte présence juive est effectivement nette. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans la politique britannique concernant la question de l'arrivée de populations juives en Palestine, mais les tensions sont déjà relativement fortes entre Arabes et Juifs. Dès 1920, il y a en Palestine des affrontements entre les deux communautés. À Jérusalem même, il y a en 1929, au mur des Lamentations, des heurts qui font quelques morts entre Juifs et Arabes. Et quant à la grande révolte arabe de 1936, elle met l'incendie dans toute la Palestine, y compris Jérusalem, où cette fois-ci, on ne se bat pas seulement qu'entre Arabes et Juifs, mais on prend à partie également les représentants de l'ordre britannique. Cet ordre britannique est finalement organisé selon la formule « divisé pour régner ». Le conseil municipal de Jérusalem reste basé sur les confessions religieuses, à savoir que les Britanniques confient la mairie à un musulman, même s'ils ne sont pas officiellement les dominants sur le plan démographique, c'est toujours un membre de la famille des Nashashibi qui administre la ville sur le plan municipal. Et le maire a à ses côtés deux maires adjoints, un chrétien et un juif. Inversement, on a placé, par décision britannique, à la tête des communautés musulmanes, le grand moufti de Jérusalem, Ali al-Husseini, qui est nommé en 1920 responsable religieux et qui d'ailleurs s'avérera quelqu'un d'extrêmement incontrôlable pour les administrateurs britanniques. Mais après la Seconde Guerre mondiale, se pose clairement la question, faut-il créer un État d'Israël à côté d'un État palestinien. La Grande-Bretagne a longtemps hésité. Et c'est en janvier 1947 qu'elle va donner à l'ONU le dossier de la Palestine avec, évidemment, celui de Jérusalem. Car la question de savoir à qui donner la ville, à l'État d'Israël ou à l'État palestinien, est une question extrêmement brûlante. En fait, l'ONU, lorsque elle vote le 29 novembre 1947 la création d'un État palestinien et d'un État israélien, vote également l'internationalisation de Jérusalem. C'est-à-dire que l'ONU estime que la ville ne peut être confiée ni à un État arabe-musulman à dominante ou à l'État d'Israël. Mais cet accord du 29 novembre 1947 va très rapidement voler en éclats. En effet, dans les premières heures qui suivent le vote de l'ONU, des combats débutent entre communautés juives et communautés palestiniennes. Qui plus est, au mois de mai, lors de la proclamation officielle de l'État d'Israël, les États voisins rentrent en guerre contre l'État d'Israël. Ce qui fait que, en 1949, quand est signé l'armistice entre les puissances arabes et Israël, non seulement il n'y a plus d'État palestinien, mais la ville de Jérusalem est scindée en deux. La partie est, avec la vieille ville, est sous le contrôle jordanien, alors que la partie ouest essentiellement constitué de quartiers neufs, appartient à l'État d'Israël. Ce qui fait que, à ce moment-là, les Jordaniens ont l'occasion de proclamer Jérusalem deuxième ville du royaume de Jordanie, ce que ne manque pas de faire en 1948 le roi Abdallah. Durant cette période jordanienne, entre 1948-49 et 1967, a lieu un épisode extrêmement important sur le plan religieux, la visite du pape Paul VI en Terre Sainte et à Jérusalem en janvier 1964. Mais tout est bouleversé en 1967. En effet, dans le cadre de la guerre des Six Jours, les troupes israéliennes réussissent à prendre la ville, avec des combats d'ailleurs assez meurtriers au cœur de la vieille ville. En tout cas, le 7 juin 1967, la ville est réunifiée par la victoire israélienne et le drapeau à l'étoile de David flotte au-dessus du mur des Lamentations. Nous avons donc vu que la ville est réunifiée à la suite de la victoire israélienne. Mais cela ne laisse en rien présager le statut exact de la ville, à la fois aux yeux de l'État d'Israël et à la fois aux yeux de la communauté internationale. Il est vrai que dès les années 1970, il y a eu une politique de colonisation ou implantation. Il faut s'expliquer. Le mot « colonisation » est globalement rejeté par les dirigeants israéliens parce que c'est un terme jugé péjoratif. Ce terme est utilisé par les Arabes et globalement par une très grande partie de la communauté internationale. Par contre, il y a un deuxième mot qui est plus utilisé par les partisans de l'implantation juive à Jérusalem et plus globalement d'ailleurs en Cisjordanie, c'est celui d'implantation. Alors, entre 1971 et 1977, c'est-à-dire alors que ce sont encore des gouvernements travaillistes qui dirigent l'État d'Israël, 30 000 Israéliens sont implantés à Jérusalem-Est. Par contre, ce phénomène d'implantation-colonisation, chacun choisira son terme, eh bien, s'accélère dans les années 1980, puisque c'est environ 100 000 personnes qui s'installent dans la vieille ville et à l'est de la vieille ville. Alors, reste à savoir maintenant le statut exact qu'a Jérusalem. Par la loi votée par la Knesset en 1980, Jérusalem devient, aux yeux de l'État d'Israël, la capitale éternelle et indivisible de l'État. Donc, évidemment, cette formule de capitale éternelle et indivisible laisse peu présager la possibilité d'un accord de nouveau partage de la ville de Jérusalem. D'ailleurs, il est à noter que les accords de Washington de 1993 entre l'autorité palestinienne de Yasser Arafat et le gouvernement israélien dirigé par Yitzhak Rabin n'évoquent pas la question de la souveraineté de la ville, parce qu'elle est beaucoup trop sensible. Lorsqu'il y a eu la rencontre de 2000 à Camp David, sous l'égide du président Clinton, entre Ehud Barak, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, on a parlé de Jérusalem. Mais si cette réunion de Camp David est un échec, c'est en grande partie dû au fait que les deux parties ne pouvaient pas se mettre d'accord sur Jérusalem. Les Israéliens ne voulaient surtout pas rediviser la ville pour en donner une partie aux Palestiniens qui pourraient en faire leur capitale dans le cas de la création d'un État palestinien. Et quant aux Palestiniens, ils n'envisageaient véritablement de n'installer une capitale de leur État, qui avait finalement disparu dans les combats de 1948-49, qu'à Jérusalem. Donc il est bien évident que nous avions affaire à un langage de sourds. Les deux parties ne pouvaient pas s'entendre. Qui plus est, comme finalement la colonisation-implantation s'est poursuivie dans les années 1990 et au début du XXIe siècle, désormais, il y a une très large majorité d'Israéliens qui vivent dans Jérusalem, qui est une ville de moins en moins arabe. Et évidemment, la question qui se pose désormais est celle de la reconnaissance internationale de la cité. Normalement, la communauté internationale ne reconnaît que Tel Aviv. Or, en 2018, le président Donald Trump a décidé que l'ambassade des États-Unis s'installerait à Jérusalem. Ainsi, ce serait clairement une affirmation que Washington reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. La décision américaine a été suivie par le Brésil et l'Australie, mais à l'heure où nous parlons, aucune capitale d'autres grandes puissances, je pense en particulier aux Européens ou à la Russie, n'a fait de Jérusalem le siège de leur ambassade. Vous l'avez compris, au travers de ces quatre émissions, la ville de Jérusalem est une ville qui connaît une histoire extrêmement longue. Reste à savoir si, au-delà des conflits, des heurts et des troubles que la ville a connus durant son histoire, elle mérite encore le titre de ville de la paix. Et pourtant, c'est bien là que trois grandes religions monothéistes continuent à prier Dieu avec ferveur.